Eh bien bonjour, bienvenue à Aime l'été, ici Chantal Lavoie, vendredi 18 août, notre toute dernière journée de la semaine. C'est un plaisir d'accueillir de nouveaux invités et chroniqueurs. On va s'intéresser à nos rêves pour à la fois les réaliser, aussi un livre pour faire face à l'anxiété, surtout quand on est jeune, et un autre livre sur une pionnière de l'humour au Québec. Alors je vous promets de belles rencontres entre midi et 13h. Je vous invite à nous suivre à Aime l'été. Et plus concrètement, je vous propose notre chronique avec José Blondin, et oui, psychologue au service des aînés, qui viendra nous parler de notre cerveau pour que l'on puisse mieux s'en servir pour réaliser nos rêves, quel que soit notre âge. Et le journaliste, Mario Girard, qui a publié récemment un livre magnifique sur Clémence Desrochers, cette grande poète, grande monologuiste, chansonnière à sa façon. Alors, une artiste, bien sûr, que le public a toujours adoré. Ce livre, Clémence, encore une fois, publié aux éditions La Presse. Alors, on en parle avec Mario Girard un peu plus tard. Et j'accueille dans un instant Virginie Cloutier-Nault, qui est auteure, journaliste et musicienne, pour parler du livre « C'est pas juste dans ta tête ». Et c'est un livre sur l'anxiété des ados. Alors, on en parle avec elle dans un tout petit instant. Restez là, à Aime l'été! Eh bien oui, j'accueille cette autrice, journaliste et rédactrice depuis près de 15 ans, Virginie Cloutier-Nault. Bonjour.
Bonjour.
Ah ben écoutez, vous avez fait bien sûr plein de choses dans votre vie, bien sûr de la vulgarisation scientifique, mais il faut dire que vous m'impressionnez avec votre parcours quand même parce que vous êtes diplômée de l'École nationale de l'humour et ça, c'est pas rien parce que évidemment, ça teinte toutes vos ouvrages, en fait, ce que vous écrivez, ce que vous faites. Vous avez écrit notamment le guide sur la puberté et la sexualité des filles. Alors, c'était intitulé « Clitoris ». N'est pas le nom d'une planète. Très drôle, évidemment. C'était aux éditions Les Malins, hein, je crois.
Oui, c'est ça.
Et puis, Pas juste dans ta tête, qui est à la même édition, finalement. Alors, c'est ce tout dernier livre. Vous êtes également pianiste. Alors, vraiment, puis vous êtes diplômée en communication et en interprétation de la musique classique de l'Université de Montréal. Alors là, vous allez m'expliquer, évidemment, tous ces intérêts. c'est quand même pas un parcours banal.
Je pense pas, non. En fait, ça joint beaucoup le guide que j'ai écrit parce que ce guide-là est très personnel, en fait. C'est pourquoi, en fait, mon parcours est aussi peut-être en zigzag. C'est parce qu'à l'origine, moi, j'ai toujours voulu être pianiste. C'est ce que je voulais faire dans la vie. Mais bon, mes parents étaient vraiment contre ça. C'est un peu classique comme histoire, mais c'est ça. Mais très contre ça. Je pouvais pas y aller. Mais moi, dans ma tête, c'était clair, c'est clair, net, précis, ça, je voulais faire. Fait que je me suis dit, je vais aller faire autre chose, je vais aller en communication. Moi qui étais ultra timide en partant, comme parler, c'était très difficile, mais j'ai décidé d'aller affronter la bête noire.
Ouais, d'accord.
Exact. Et puis, en étant en communication à l'Université de Montréal, j'ai découvert l'écriture et surtout le journalisme. Puis j'ai réalisé que c'était quand même quelque chose qui me rejoignait. J'aurais jamais cru, surtout pas le journalisme. Je pensais pas que ça pouvait être moi. Je pensais qu'il fallait être incroyablement intelligent pour faire ça.
Ouais, puis il fallait rencontrer des gens. Puis il fallait justement mettre notre timidité de côté.
Ouais, faire des appels, mon Dieu. C'est le cauchemar pour moi. Mais j'ai quand même affronté ça. Puis fil en aiguille, c'est ça, les premiers emplois, les trucs. J'ai trouvé quelque chose. J'ai quand même trouvé ma zone de confort là-dedans, sauf que... Vers ma mi-vingtaine, ma mère est décédée d'un cancer assez jeune. Elle avait 51 ans. Puis moi, ça a été une période de grosse remise en question. C'était très difficile. Puis surtout, la question de « Mon Dieu, est-ce que je fais la bonne chose? » Est-ce que... Puis là, la musique est revenue. Mon seul regret, en fait, au moment où ma mère est décédée, c'est d'avoir abandonné la musique parce que j'avais complètement arrêté de jouer du piano. Surtout la musique classique, je vais complètement laisser ça de côté.
Vous étiez en musique classique, en fait.
C'est ça. Puis ça m'a vraiment... Ça m'a frappée, en fait. Je me dis, mon Dieu, c'est peut-être... je passe à côté de ma vie. Et puis, j'ai décidé d'acheter un piano, commencer à jouer. Je partais de loin, mais j'étais vraiment motivée. Je jouais plusieurs heures par jour. Et puis, fil en aiguille. Tu sais, c'était pas mon plan, mais j'étais allée passer des auditions. Puis, j'ai été acceptée en quelque part. Puis, j'ai continué. Puis, j'ai fini par avoir un bac là-dedans.
Et puis, vous êtes encore, de toute façon, très active.
Oui.
Parce que vous partagez vraiment, c'est ça, votre temps un petit peu avec la musique encore et l'écriture. Alors, c'est vraiment vos deux vocations, là, si on veut. Alors, là aussi, évidemment, bon, c'est ça. Donc, vous faites, c'est ce que vous faites. Mais là, qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser particulièrement aux ados? Parce que là, dans le cas de votre livre précédent, c'était un guide sur la puberté et la sexualité des filles. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes comme, là, un peu plus la journaliste en vous? Vous vous êtes intéressée à la vulgarisation scientifique.
Oui, j'avais envie de parler directement aux jeunes parce que je trouve souvent les livres sur l'anxiété, psychologie, c'est toujours sur un ton assez sérieux, je ne sais pas comment dire, mais très éducatif, informatif.
Oui, exactement.
Ce qui est excellent, là, c'est très bon.
On est dans la psychologie, ça fait un petit peu... C'est ça, ça fait...
C'est sérieux.
C'est pas accessible, toujours. Oui.
Pas toujours, puis j'avais le goût de leur parler parce que moi, ce qui m'a aidé beaucoup dans mon parcours avec l'anxiété, oui, je suis une grande anxieuse, c'était de parler avec des gens à qui j'avais pas nécessairement accès. C'est des gens qui, pour moi, avaient l'air de... Tout avait l'air normal, naturel, pas d'anxiété, pas de stress. Je monte sur scène, je joue ma pièce de piano, tout va bien, ouais. je ne fais pas d'insomnie, j'ai
vous
pas
vous
mal au ventre.
Vous avez su que c'était pas tout à fait ça?
Pas vraiment, tu sais.
C'est niaiseux. Donc ça vous a un peu rassuré en quelque sorte, parce que
vraiment?
Étant vous-même anxieuse, d'ailleurs, c'est ça, vous faisiez de l'anxiété jeune, jeune
toujours,
aussi.
Toujours. Puis c'est ça, c'est justement d'avoir des références comme ça. Après ça, de chercher aussi dans les livres, comprendre pourquoi on est comme ça. Fait que je me suis dit peut-être de leur parler directement sans filtre un peu liché. Là, tu sais, ben oui, c'est bien écrit, là, mais je veux dire,
oui,
c'est
absolument.
Pas...
Oui, absolument. Oui, oui. Puis vous êtes quand même, il y a un médecin qui... il y a quand même un médecin qui vous accompagne là-dedans.
Oui.
Là. C'est pas, ça vient pas tout de votre tête nécessairement,
non.
Mais c'est vraiment aussi ça part de votre expérience à vous et de ce besoin, de ce désir de communiquer et de communiquer aussi aux jeunes.
Oui.
Alors, vraiment. Et puis, c'est ça. Donc, c'est ça. Et vous le faites, évidemment. Bon, là, vous avez votre, je dirais, entre guillemets, votre background d'humoriste par le biais de l'école de l'humour. Alors, ça, c'est un autre volet de votre personnalité.
Oui.
Une anxieuse qui fait de l'humour. Pourquoi pas? Alors, ça détend.
Beaucoup.
Ça détend beaucoup.
Hein. Puis ça aide à... dans le fond, c'est changer la façon dont on voit les choses. C'est beaucoup ça, l'humour, en fait, c'est de voir la vie de tous les jours, mais sous un autre regard. Puis
et
c'est
voilà.
Ça qui nous fait... on part à rire parce que, mon Dieu, c'est tellement vrai, souvent.
Oui,
tu sais.
Dédramatiser,
exactement.
C'est un peu ce que vous dites, là. C'est ça qui est important, dédramatiser ces situations-là. Et vous le faites par l'humour. Et effectivement, c'est beaucoup plus réconfortant. Donc, c'est un autre angle. Et puis, c'est ça. Donc, vraiment... Alors, qu'est-ce qui vous a... là, vous avez évidemment pensé l'anxiété, hein, c'est sous toutes ses formes. On sait que c'est vraiment une préoccupation de tous les jours, là, autant pour les adultes et les jeunes, de plus en plus en souffrent. On en a parlé pendant la pandémie. Hein, ça a été un sujet qui a été qui est ressorti beaucoup. Mais c'est ça, il y a toutes sortes d'anxiétés. Il y a des anxiétés qui sont quand même positives et je pense que ça vous a... Vous dites vous-même que ça vous a sauvé en quelque sorte.
Oui, c'est...
L'anxiété.
Oui, ça fait drôle à dire, mais... C'était beaucoup, moi, c'est surtout pendant la pandémie, en fait, que j'ai eu tellement de temps complètement seule que j'ai pu penser à ça, justement, que pourquoi je suis anxieuse? Qu'est-ce qui se passe? Puis ça me permettait de... C'était tout le temps les mêmes points. Hein. Quand on réfléchit, c'est pas tout. C'est pas tout ce qui... La vie au complet ne me rend pas anxieuse. C'est certains points qui me rendent tellement anxieuse que je vois plus clair. Puis c'est d'aller, j'ai pu prendre le temps de coucher sur papier, de réfléchir à c'est quoi qui se passe, puis parce que mon anxiété pointait vers ce qui clochait, dans le fond, dans ma vie. Et puis,
parce
c'est
que vous
ça,
dites
que je dis...
c'est un signal en anxiété.
Ouais.
Alors c'est ça, il faut... Donc c'est pas nécessairement négatif dans la mesure où c'est notre système d'alarme.
Oui, puis souvent, j'ai comme l'impression j'avais l'impression qu'on parlait souvent de l'anxiété comme quelque chose de très mal. Hein. Il faut l'enlever vite. Souris, sois heureuse, la vie est belle, sois positive. T'sais. Mais tu fais, ouais, non, mais il y a quelque chose. Si je me sens comme ça, je sais pas. Justement,
il y a une raison.
C'est pas juste dans ma tête. Là. C'est pas parce que je suis déréglée. T'sais. Fait, c'est ça, c'est d'aller c'est pour ça que je dis que ça m'a sauvé, ça m'a pointé un peu vers
parce
des
que
choses
ça,
là, faut
ça
te changer.
Il y avait quelque chose qui était derrière tout ça et que vous pouviez aller, que quelque chose que vous pouviez aller régler. Ben, c'est ça qu'il faut faire aussi. C'est l'idée derrière le livre, au fond.
Exactement.
C'est que c'est un système d'alarme, l'anxiété, ça dit qu'il y a quelque chose et ça amène finalement les ados, en tout cas, à dire, attends, tu sais, à leur dire, ben, si vous êtes comme ça, c'est parce que, effectivement, il faut en parler. Et puis, c'est pas nécessairement normal de vivre ça, mais ça peut être correct aussi dans la mesure où ça nous fait prendre conscience peut-être de certains problèmes.
Oui.
Mais, définir c'est quoi l'anxiété, ça, vous le faites aussi dans un de vos chapitres, là, c'est ça, définir vraiment. Je pense qu'il y a tout un, c'est ça, en fait, un chapitre là-dessus. Et puis, qu'est-ce que c'est l'anxiété? Il y a de l'anxiété de performance, il y a toutes sortes de formes d'anxiété.
Oui, c'est sûr que là, j'ai parlé de toutes les formes d'anxiété, mais je me suis concentrée, tu sais, j'ai fait un chapitre sur, par exemple, l'anxiété de performance, mais l'anxiété de performance, ça fait partie de l'anxiété sociale.
OK.
Mais j'ai quand même scindé le sujet en deux parce qu'on en parle tellement de l'anxiété de performance, justement, face aux études, face à...
Aux attentes des parents.
Les attentes des parents, les attentes des amis, de la société.
Tout à fait.
C'est très lourd. Et puis, juste un truc que je voulais que je veux préciser, c'est ça, c'est l'idée, dans le fond, du livre, c'est vu que c'est des adolescents, c'est de leur donner des outils parce que pour s'affirmer. Parce que c'est souvent ça, on s'affirme, on a comme un peu honte de peut-être être moins sociable que ses amis à côté ou on cherche un peu pourquoi je ne suis pas à l'aise dans cette situation-là alors que je devrais être à l'aise là-dedans, mais non, peut-être pas. C'est d'aller s'affirmer dans ce qu'on est. Puis justement, la façon de s'affirmer, ben c'est pas juste « affirme-toi ». On dirait que c'est violent un peu en s'affirmer, mais c'est pas ça, là. C'est vraiment...
C'est un apprentissage, hein?
Ben oui,
c'est ça.
C'est
quoi d'ailleurs, vous avez développé des phrases aussi, comme des phrases pour finalement... pour définir un petit peu mieux ce que vous êtes quand vous êtes anxieuse, là, je pense que c'est ça, j'arrive pas à me souvenir là, exactement de la phrase, mais vous
comme
la connaissez.
Oui, oui, mais comme le fait pour s'affirmer, tu sais, je me dis, c'est souvent basé sur mon échelle de valeur personnelle. Par exemple, puis moi, c'est chacun sa personnalité,
oui,
mais moi,
oui.
j'ai des valeurs.
On l'adapte
très,
à nous, finalement, oui.
Tu sais, je ne suis pas une personne qui vole, point. Si j'arrive au restaurant pour ne pas amener ma facture, je ne vais pas m'en aller, tu sais.
Voilà.
Il y en a qui vont s'en aller puis vont rire de moi parce que j'ai payé, tu sais. Tu ne t'aurais pas dit, ça aurait été gratuit. Je suis comme, je ne sais pas c'est quoi les conséquences pour cette personne-là si je ne paye pas. De toute façon, si je vais au resto, c'est parce que je vais payer, là. C'était déjà
tout
là.
Tout à fait.
Mais
c'est ça,
des fois, d'être avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs, ça peut vraiment créer beaucoup d'anxiété parce qu'après ça, je pourrais rentrer chez moi et dire, ah, il y a bien raison, j'aurais pas dû tomber nounoune pour te payer, tu sais.
Ouais,
mais non.
Ouais. Non, non, je comprends. Mm. Et puis, c'est ça, mais ça peut être... on parle d'anxiété sociale et puis, bon, l'éco-anxiété, bien sûr, là, ça aussi, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Mais là, évidemment, il y a des problèmes plus sérieux, là, les troubles anxieux, ça, c'est autre chose. Bon, alors, c'est là que vous dites, ben, il y a toutes sortes de formes d'anxiété, c'est ça. Ça peut être la peur de rater sa vie, toutes nos émotions, finalement, qui sont, à l'adolescence, exacerbées, hein, bien sûr, par l'apprentissage qu'on doit faire de la vie. C'est vraiment... alors, il y a toutes sortes de façons. Alors, dans le livre, là, parce qu'il faut quand même... parler de livres, vous allez donner des trucs, donc, toujours de façon humoristique, vraiment de façon à ce que, on dédramatise cette situation-là. Alors, vraiment très bien fait, je dois dire, là, je l'ai parcouru assez rapidement en voyant toutes sortes de façons pour vous d'amener les choses.
Oui, j'ai perdu mon point.
Non, non, ça va.
Mais... C'est ça, c'était beaucoup le côté dédramatisé, c'est beaucoup de jouer avec sa pensée, hein, parce que notre pensée, elle ne nous dit pas la réalité.
C'est ça, donc on décode pas les bonnes choses.
Non.
Ben, raison de plus à l'adolescence,
oui.
C'est certain. Alors, vraiment tout ça, ça a été révisé, bien sûr, par un médecin.
Ouais.
Alors, donc, vous définissez le stress, qu'est-ce que c'est, l'anxiété également, sous toutes ses formes. Et puis, bon, la deuxième partie vraiment du livre, c'est de présenter des pistes de réflexion et des conseils. Mais vraiment, on le fait toujours de façon très simple aussi. Votre vocabulaire, vous n'y allez pas là, trop, de façon trop compliquée et puis toujours avec une pointe d'humour. Vraiment, c'est ça, c'est un livre, vraiment un guide que les parents devraient avoir aussi sous la main, je pense.
Oui, pour, je pense qu'ils pourraient apprendre beaucoup.
Oui, c'est ça, pour eux-mêmes, c'est pas juste pour l'adolescent.
Tout à fait.
C'est vrai, je pense que dans les deux cas, donc vraiment, c'est vraiment pour, je pense, pour même les adultes, c'est une belle façon. Ben écoutez, c'est vraiment absolument génial ce que vous faites, et puis avez-vous d'autres sujets qui vous préoccupent, là, parce que évidemment, vous ratissez large, là, quand on parle de la puberté aussi, ça a été autre chose, hein, ça a été tout un autre univers, finalement.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile là, entre les deux?
Je dirais que le premier livre a été plus difficile sur
la sexualité des jeunes filles, entre autres, oui.
Parce que je dois avouer que j'en ai appris énormément.
Oh, j'imagine, hein?
Puis ça aussi, c'est un guide. Je me disais, c'est fait pour les filles, mais ce serait tellement le fun que les gars le lisent et les parents aussi, parce que du haut de mes... J'avais 37 ans quand je l'ai écrit, là, puis j'ai appris beaucoup de choses et c'était un peu... C'était un peu difficile de savoir que finalement, j'en savais pas tant sur mon corps, mon propre corps avec qui je vis depuis
ouais, une
trentaine
d'années. Il y a beaucoup de mythes, hein, surtout quand on est jeune adolescent. Là, finalement, on prend des bribes à gauche, à droite et finalement, on s'aperçoit que c'est un peu du n'importe quoi bien souvent.
Ouais.
Alors, c'est sûr. Donc, et puis là, vous avez aussi un espace blog parce que vous aimez aussi poursuivre la discussion, que les gens lisent vos livres, c'est merveilleux, mais que vous puissiez aussi avoir un espace où les gens peuvent aussi continuer la discussion.
Ouais.
C'est important. Donc, votre blog, alors on le trouve de quelle façon?
Ça va être sur mon site personnel.
Oui.
C'est Virginie C. NoNAUD.com.
D'accord, c'est parfait. Et puis, donc, un livre vraiment à voir sous la main, pas juste dans ta tête, un regard différent sur l'anxiété à l'adolescence, publié aux éditions Les Malins. Alors, vraiment, c'est un très beau livre, Virginie Cloutier-Nau. Et puis, c'est ça, vous le faites admirablement avec votre savoir-faire, vos mots qui, évidemment, vous êtes autrice. Alors, vous avez cette facilité à communiquer et en même temps avec cette pointe d'humour qui vous vient de, encore là, votre formation. Alors, est-ce que vous aimeriez poursuivre un petit peu plus l'aspect humour, là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous titille pour l'avenir? Avez-vous des souhaits, des rêves de ce côté-là?
Ça va toujours rester dans l'écriture, je pense.
Ouais.
Mais c'est dans mon écriture, c'est dans ma personne. C'est pas la façon dont je m'exprime. C'est toujours un peu... c'est pas tout le temps hilarant, mais il y a toujours au moins de l'humeur ou de l'humour. Fait que
ouais.
Je pense que ça va rester toujours dans l'écrit. Pour le reste, on va...
Mais pour le reste, moi, je trouve que vous devriez aussi peut-être envisager le théâtre. Moi, j'aimerais bien, finalement, oui.
Ah, c'est sûr, aller, peut-être, oui. Oui,
c'est ça. Je pense que vous pourriez... vous avez beaucoup de créativité en même temps. Je suis sûre que c'est quelque chose qui pourrait être du théâtre jeunesse. Ça pourrait être formidable.
Oui, tout à fait. J'espère que ça va se réaliser un jour. Oui, j'aime ça, oui.
Oui, on va mettre ça dans l'univers.
Oui.
Effectivement, on va... justement, je vais en parler avec ma prochaine invitée, là, programmer un petit peu son cerveau pour que nos rêves se réalisent. Ben, je pense que ça serait chouette. Moi, je vois ça tout à fait. Je pense que les ados, là, ce serait vraiment deux livres à adapter, je suis certaine,
oui,
au théâtre. Ben, pensez-y, puis on pourra se revoir
c'est
là-dessus.
Bon.
Merci beaucoup là, d'être venue nous en parler. C'est pas juste dans ta tête. Donc, un regard différent sur l'anxiété à l'adolescence aux éditions Les Malins. Au revoir. Merci.
Merci.
C'est une nouveauté, ça s'appelle Fleur de peau de stroboscope. Excusez-moi, je vais reprendre.
Oui, vas-y.
Fleur de peau de stroboscope.
Bon, ben voilà. Il y a des jours, mais c'est la dernière journée de la semaine, il faut dire. Hein?
Ouais.
Alors, il faut quand même se pardonner un tout petit peu moi-même, c'est ça. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses, c'est ça. Après une semaine, là, on a beaucoup de choses en tête. On va parler avec José Blondin, psychologue au service des aînés, qui revient chaque semaine, le vendredi, pour nous parler justement des aînés. Mais je pense que ça nous aide tous, hein, quel que soit notre âge, les propos de José. Bonjour, bonjour José.
Allô, Chantal.
Bon, ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et puis, comme je le disais à mon invitée précédente, là, on va tâcher de programmer notre cerveau là, pour réaliser nos rêves. C'est un peu ça dont tu nous parles aujourd'hui.
Tout à fait, Chantal. C'est lors de la chronique, on a parlé des deuils, dont celui des projets, les rêves non réalisés. Puis là, je me suis dit, mais attends, on peut programmer notre cerveau. Il n'est pas trop tard pour les réaliser, nos rêves, et surtout pour faire en sorte qu'ils se concrétisent.
Ben oui, puis bon, il faut quand même avoir des rêves réalistes, on s'entend, et puis selon notre âge, il faut les adapter aussi, mais les rêves sont les rêves, et puis effectivement, il n'y a pas d'âge pour réaliser nos rêves, et puis c'est ça, c'est sûr qu'on ne va pas refaire notre vie au complet là, quand on a 75 ans, mais tout de même, on peut avoir de beaux rêves à réaliser encore, alors c'est ça. Puis effectivement, le cerveau, là, c'est quelque chose, on dit toujours, y a des gens qui disent « on met ça dans l'univers », mais c'est un peu une façon aussi de mettre ça dans notre cerveau, de nous donner un objectif.
En fait, ici, on va parler de la programmation du cerveau. Donc, c'est un concept, c'est métaphorique, là. Hein?
Bien sûr, c'est ça.
Si on programmait un ordinateur ici, mais les expériences, l'éducation, l'environnement et d'autres facteurs peuvent influencer nos pensées, nos comportements, nos réactions. Et tu sais, quand tu dis « on met ça dans les mains de l'univers », c'est que quelque part, on est en train, entre guillemets, de programmer notre cerveau à faire en sorte que quelque chose arrive aussi. Là.
C'est ça, ben oui, parce qu'il faut en prendre conscience. Hein. Il faut d'abord bien définir nos rêves, ce qu'on aimerait. Et puis après ça, il faut trouver... le fait d'y penser, et puis c'est ça, comme on dit, d'imprégner notre cerveau de ces images, de ces rêves-là, ça nous fait trouver des solutions en même temps pour y arriver.
Exact, parce que le cerveau, dans sa programmation, on va arriver, dans le fond, à l'influence de certains apprentissages, l'expérience. On va amener notre cerveau, dans le fond. En fait, on va avoir, puis là, je vais peut-être t'étonner, mais on a quatre parties du cerveau, finalement, à mobiliser. Là, j'ai le goût de dire ça comme ça. Parce que, tu sais, nos apprentissages, nos expériences, c'est pas nécessairement toujours conscient aussi dans ce qu'on va amener dans notre cerveau. C'est par exemple le fameux PAS, P-A-S, mais il n'est pas enregistré par notre cerveau en passant. Donc, on va y aller avec des affirmations positives.
Okay.
Donc, pour justement arriver à programmer.
Ah, vas-tu veux dire l'aspect négatif, là? Quand tu dis le pas, c'est-à-dire que, en fait, tout ce qui est. On doit avoir des affirmations et non des négations.
Tout à fait. Et tantôt, je vais vous parler après la pause d'un exercice qui peut être fait pour nous amener dans le positif, nous amener aussi dans la visualisation. Parce qu'il y a quatre parties de notre cerveau qu'il faut quand même amener dans notre programmation. Il y a le cerveau gauche qu'on va parler, dans le fond, qui correspond. Tu sais, on a tout le temps vu ça, Chantal, on a un côté droit et un côté gauche, là.
Oui.
Donc, on va pousser ça plus loin. On a le côté gauche, ça, c'est toute la logique. Donc, tu sais, par exemple, arriver à dire, OK, je me fais un plan. Parce que, tu sais, quand on cesse de rêver ou d'avoir des objectifs, c'est là aussi qu'on décline finalement, que le vieillissement prend le dessus aussi. On l'a vu, là, c'est sûr qu'il y a des maladies dégénératives, malheureusement, mais on peut retarder le vieillissement de notre cerveau aussi. Donc là, l'idée, on entretient notre cerveau gauche, on met de la logique là-dedans, on met un plan.
Okay.
On a notre cerveau qui est le cerveau frontal qu'on parle, qui lui est plus lié aux émotions. Et qu'il ne suffit pas juste d'avoir un plan, là, mais c'est de ressentir ce plan-là. C'est quoi je vais vivre ou ressentir avec ce plan-là, mon objectif ou mon rêve finalement. Là, il faut vraiment comme ressentir l'émotion, que ce soit une émotion, on va y aller dans le positif, une émotion de joie, une émotion d'extase. Et on va amener ça après ça à notre fameux cerveau droit. On entend souvent parler de notre cerveau droit. Ça, c'est toute l'imagination. Donc là, on va se projeter. On va dire, OK, mon plan, mon objectif, c'est quoi? Là, je vais le sentir, je vais le vibrer et je vais rattacher à ça des images aussi pour justement permettre cette créativité-là. Parce que plus j'ai d'images, et bizarrement, c'est du côté droit que la mémoire, elle est.
Ah, OK.
C'est pas ça, côté gauche.
Bon, bien, on va continuer après ça. On va revoir ça un petit peu vitement après la pause. Et en même temps, on va parler aussi de la mise en action de tout ça. Alors, José, on se retrouve tout de suite après la pause.
À tout de suite.
À tout de suite, oui.
Vous écoutez Aime l'été.
Deuxième moitié d'émission et je suis toujours avec José Blondin, psychologue au service des aînés. On parle de programmer son cerveau pour réaliser ses rêves. Et oui, bon José, on a parlé des quatre cerveaux, façon de parler, des quatre parties de notre cerveau qu'il faut stimuler peut-être pour justement, peut-être nous aider justement à le programmer d'une certaine façon, entre guillemets, là, de façon métaphorique, bien sûr, pour justement mieux réaliser nos rêves. Alors, on a parlé du cerveau gauche qui correspond à la logique, le cerveau frontal lié aux émotions, et là, tout à l'heure, on parlait du cerveau droit en lien avec l'imagination et la création.
Exactement, et on va terminer avec le cervelet, donc c'est l'autre partie de notre cerveau qui est à stimuler, qui est la mise en action, qui est le mouvement. Donc ça, c'est toutes les petites actions, ou voire même les personnes que vous allez rencontrer qui vont vous rapprocher de votre plan puis de sa réalisation. Et là, l'idée de l'exercice que je vais te parler, Chantal, c'est comment on combine ces quatre parties.
Ben oui, c'est ça. Ça, c'est la grosse affaire, oui.
Oui, c'est ça. Parce que là, c'est quand même, on n'ira pas par partie détachée. Là.
Non, tu sais, il faut faire la grosse job, là, mais comment on y arrive après ça pour tout réunir ça?
Exact. Et là, l'idée que je vais vous parler de l'exercice, c'est créer votre vision board. Donc, un tableau d'une vision de votre vision, finalement. C'est quoi ça? C'est un tableau. Donc là, on a votre côté gauche. Hein? On aligne un plan. Et là, vous allez sur ce tableau-là coller des images. Donc, ce sont des images que vous allez trouver sur Internet, dans les journaux, les magazines, mais qui vont correspondre ou qui vont représenter vos rêves aussi.
Oui, alors ça, c'est très visuel, là, ce que tu es en train de dire.
Exact. Là, on vient quand même, on a le plan côté gauche, on a le côté droit ici, parce que justement, c'est visuel, on rentre dans la création, l'imagination. Et c'est des images aussi que vous devez vous identifier. T'sais? Donc, par exemple, vous projetez, vous dites, mettons, dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, là, c'est à vous là, de le projeter dans le temps. Puis là, vous dites, ben moi, j'aimerais ça, je me vois en santé. Donc, vous allez trouver une image d'une personne âgée qui vous ressemble et qui représente ce que est pour vous la santé. Donc, par exemple, si la santé, c'est le bonheur, vous allez trouver une image d'une personne qui est heureuse.
C'est ça.
La santé, souriante et tout, ouais, c'est ou ça. Physique, ben, vous allez trouver une image d'une personne plus vieille qui s'alimente bien ou qui est en haut d'une montagne, par exemple, parce que il y en a là, qui sont encore très, très actifs aussi, là. Donc, c'est des images que...
C'est très images positives, hein, de ce qu'on voudrait être, dans le fond.
Exactement. Et après ça, dans le fond, vous pouvez aussi avoir des images. Donc là, ça part de votre personne à vous, mais vous pouvez aussi avoir des images aussi liées à votre couple. Donc, de voir un couple, par exemple, qui fait des activités ensemble. Donc, tu sais, c'est des images qui, quand vous trouvez ces images-là, n'oubliez pas, on a l'autre partie de notre cerveau. On veut faire vivre de l'émotion pour amener ça dans la concrétisation. Ouais. Donc, c'est des images que vous identifiez, tu sais, puis que, oh, attends, là, tu sais, ça me fait vibrer aussi, là. Donc, tu sais, par exemple, vous rêvez de faire une croisière, bien, votre vision board devrait avoir un bateau de croisière aussi, là.
C'est ça. Donc, effectivement, toutes les images qui nous remplissent de joie, de bonheur, enfin, de choses qu'on aimerait réaliser, qu'on aimerait faire. Et puis, c'est ça. Donc, ça nous permet vraiment de visualiser clairement, assez rapidement, finalement, ce qui constitue oui. nos rêves. C'est ce que je voulais dire.
Il est important par la suite parce que tantôt, tu as dit, bon, OK, on a souvent la phrase, on met ça dans les mains de l'univers. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on met dans les mains de l'univers? C'est exactement cette programmation-là.
Oui, c'est ça, et c'est donc très visuel. Ouais.
Et tu sais, ton tableau, tu t'en vas pas le mettre dans le fond d'un garde-robe.
Mais non.
Ton tableau à porter.
Sur le frigo.
Oui, puis tu sais, bien, sur le frigo, moi, j'en ai un dans ma chambre. Donc, à chaque matin, quand je me lève, je vois ce tableau-là. Tu sais, donc, et vous devez le voir à chaque fois parce que c'est là que la beauté s'opère, dans le fond. C'est que on rentre dans le côté plutôt inconscient. Donc, à force de voir ces images-là, ça nous stimule aussi à nous mettre en action. Puis c'est là que des fois, on se dit, bien, j'ai envoyé ça dans l'univers, mais voyons, on dirait que les astres se sont alignés. Mais oui, mais c'est parce que, justement, j'ai fait en sorte que les choses s'alignent aussi parce que j'ai créé ça.
Bien sûr, c'est évident, ça, si on se remplit d'images, si ça nous incite finalement à peut-être faire des recherches, aller parfois sur Internet, et puis ben, ça nous met en action pour justement arriver à peut-être justement trouver des solutions pour réaliser ses rêves.
Il est important, puis ça, on l'avait déjà vu aussi, justement, ça nous met en action et il faut rester dans cette action-là aussi. Et je vais insister sur le fait qu'il faut que ça soit positif parce que, mais tu connais certainement des personnes aussi, Chantal, tu sais qu'il y en a qui programment tellement du noir dans le fond qu'ils se disent, mais écoute, je suis tombé malchanceux, on dirait que tout me tombe dessus. Mmh, oui, mais c'est quelque part vrai. Qu'on s'amène aussi, là, tu sais. Oui,
exactement. Parce que finalement, on arrive toujours à trouver des solutions. On peut rêver de chalet en forêt, mais bon, ça ne veut pas dire peut-être qu'on n'aura jamais les moyens d'avoir un chalet comme tel en forêt, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en profitera pas d'une autre façon. On peut trouver toutes sortes de façons de profiter finalement de chalet en montagne, mais de toutes sortes d'autres façons, là, finalement, de se mettre...
Oui.
Ouais, c'est ça, de vivre des beaux moments quand même en forêt. Pourquoi
et
pas?
C'est là, en passant, qu'il ne faut pas mettre le pas. Ah ben je ne pourrais pas. Ah ben non, ça n'arrivera pas. Donc, si je commence le négatif, évidemment, ça n'arrivera pas.
Ben oui.
Mais tu l'as très bien dit, Chantal. Ça se peut, OK, que je n'ai pas les moyens de m'acheter ce chalet-là en forêt, mais peut-être que tout d'un coup, j'ai un ami qui en a un qui va pouvoir
ben
me
voilà.
Le faire.
Et c'est une belle façon de renouer avec son ami. Ben oui, de dire, ah ben c'est vrai, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé. Puis de, bon, ben comme ça, de fil en aiguille, peut-être que finalement, on va se ramasser au chalet de l'ami.
Ben pourquoi pas, là. Et souvent, dans la vie, c'est pas tant les moyens qui se mettent en action pour réaliser ses rêves, c'est souvent les qui on va rencontrer dans notre vie qui vont nous permettre de réaliser nos rêves.
Ouais, c'est ça, exactement. Ça peut être aussi dans le cadre d'une activité que l'on fait, se joindre à un groupe, là, finalement, qui fait tel type d'activité. Alors, finalement, ça nous donne accès à des choses dont on n'aurait pas, pensé, en fait, à prime abord, oui.
Parfait. Et de voir ce tableau-là à tous les jours aussi, je reviens à l'exercice du Vision Board, c'est sûr que les choses vont s'aligner finalement. Mais là, lâcher prise, ça ne se réalisera pas nécessairement comme vous le voulez, mais ça va se concrétiser. C'est juste que vous êtes en train de l'attirer à vous et, entre guillemets, vous programmez votre cerveau pour atteindre vos rêves.
C'est ça. Et ça peut se faire, finalement, bon, ça peut se faire à travers les années. Là. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser dans les mois qui suivent.
Tout à fait. Puis c'est pour ça qu'on va mettre ça dans le temps aussi. T'sais, on se projette dans un an, on se donne un laps de temps aussi. Je veux pouvoir faire un bateau de croisière, mettons faire un tour en croisière, je vais le mettre réalistement dans le temps aussi, là, en fonction des moyens, ainsi de suite. Évidemment, ben, moi, je vous encourage à le faire Vision Board plus tôt que plus tard, pour justement pour avoir des regrets plus tard aussi, puis se dire, OK, attends, je peux encore réaliser des choses.
C'est ça. Donc, pour mettre en action, il faut vraiment mettre en action nos quatre parties du cerveau, bien sûr, tout aligner ça. Et évidemment, c'est sûr que des rêves, on n'en manque pas, mais c'est ça. Des fois, finalement, on se décourage, et puis c'est un pas à la fois, et puis c'est ça, un rêve à la fois. Puis finalement, quand on regarde ça, si on se met en action, c'est étonnant ce que l'on peut réaliser.
C'est étonnant et c'est là où on va voir aussi que c'est pas ésotérique là, ce que je vais dire. Il y a de l'énergie autour de nous et on va être surpris des résultats aussi. Et d'autant qu'en les projetant, on va y croire aussi. Et plus on croit en quelque chose, plus il y a de chances que ça se réalise aussi. Mais encore une fois, il faut aligner un plan A, un plan B et un plan C aussi.
Oui, c'est ça. Il faut structurer notre pensée. Et puis, c'est ça aussi au départ. Alors voilà, ça a été très intéressant, José, encore une fois. Alors, j'ai bien hâte encore de te retrouver la semaine prochaine, vendredi, pour un autre sujet. Alors, programmer son cerveau pour mieux réaliser ses rêves. Alors, on va essayer de mettre ça en application. Merci, José.
Merci.
Puis tu avais peut-être un petit mot de la fin, oui, en conclusion.
Oui, je vais vous donner Walt Disney, parce que je trouve tellement, si on veut se connecter au rêve, Walt Disney, c'est le symbole, qui disait, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire.
Ah, tiens donc. Voilà, c'est bien dit. Merci, José.
Merci, Chantal.
Bye-bye.
Bye-bye.
L'été, quand il fait beau soleil, je vois souvent passer de vieilles qui marchent en se tenant le bras. Elles s'arrêtent à tous les 10 pas. Quand j'entends leur éclat de rire, j'ai un peu moins peur de vieillir. C'est la chanson que je nous chante. Serons-nous deux vieilles amantes? Resterons-nous tendres complices de mes manies, de tes caprices? Dans le secret d'une maison, le château fort de nos saisons, où je fredonne un air ancien. Cet été, je ferai un jardin. Quand il fait beau soleil, je vois souvent passer de vieilles qui marchent en se tenant le bras. Elles s'arrêtent à tous les 10 pas. Quand j'entends leur éclat de rire, j'ai un peu moins peur de vieillir. C'est la chanson que je nous chante. Serons-nous de vieilles amantes, descendant lentement le temps, et qui s'arrête de temps en temps. Tu cherches long, moi le soleil. Les gens diront, voyez les vieilles qui sont ensemble depuis toujours et qui mourront. L'été quand il fait beau soleil, je vois souvent passer deux vieilles qui sont ensemble depuis toujours, qui partiront, le même jour.
La chanson de vieille que chantait Clémence Desrochers.
Et oui, cette Clémence qui sait si bien nous émouvoir. Et j'accueille Mario Girard à l'instant, auteur et journaliste bien connu à la presse, qui a publié cette année Clémence, encore une fois, ce merveilleux livre que j'ai parcouru avec grand plaisir. Bonjour Mario Girard.
Bonjour, c'est un bel accueil ça.
Ah ben ça a été, oui, hein, c'est une belle entrée en matière d'entendre Clémence chanter comme ça. Alors elle qui savait à la fois nous faire rire et pleurer, il n'y en a pas beaucoup qui ont été capables de faire ça. Je pense à Yvon Deschamps, il y avait Jean Lapointe entre autres qui faisait ça, évidemment qui pouvait nous faire rire aux larmes et à la fois nous émouvoir presque au même moment.
Tout à fait. Puis on peut dire que Jean Lapointe et Yvon Deschamps...
Yvon Deschamps aussi, oui.
Oui, se sont inspirés de Clémence. Oui, c'était très périlleux pour elle de faire ça, mais elle tenait à faire ça. Et dès le début, dès les premiers spectacles, elle tenait donc à combiner le grave et le rire. Et comme elle m'a souvent dit, tu sais, il fallait que je les ramène après une chanson triste... Il fallait que je les ramène, ou alors après un monologue très, très drôle, ben là, il fallait que je les entraîne dans quelque chose de différent. Alors, elle multipliait à chaque fois les risques que tout s'écroule, mais bon, comme c'est une femme de scène remarquable, ben, elle a réussi pendant une quarantaine d'années à faire des spectacles de la sorte et à les faire avec beaucoup de succès. C'est vraiment
ça.
Unique. Là.
C'était, en fait, un peu un clown mélancolique, en quelque sorte, mais enfin, c'était tellement plus que ça, de toute façon. Mais de toute façon, elle est vivante, elle est bien vivante, et puis c'est ça, mais pour toute sa carrière, vraiment, vous nous livrez, bon, c'est ça, à la fois un bel objet, parce que, bon, je pense que vous insistiez là-dessus, vous vouliez faire quelque chose de particulier, parce que oui, on avait aussi écrit, d'autres l'avaient fait avant vous, cette biographie de Clémence, mais vous vouliez finalement faire votre propre mise en scène, en quelque sorte.
Oui, ben j'aime bien le terme mise en scène parce que effectivement ma mise en scène elle est complètement différente et puis en même temps je voulais rendre hommage à cette poète qui est poète de tous les arts finalement. Elle a touché à tout, mais partout il y a sa poésie. Donc c'est pour ça que dans ce livre, oui, il y a un récit biographique, mais il y a aussi des dessins, il y a des textes de chansons, il y a des textes de poésie, il y a des photos, évidemment, il y a des documents d'archives, il y a des lettres que j'ai retrouvées qu'elle envoyait à son père quand elle était toute petite. Alors, on a fait vraiment, et c'est rare de nos jours, je dois dire, au Québec, là, d'arriver à un tel résultat, mais je pense qu'elle méritait ça, et les éditions La Presse ont cru dans ce projet, et on a vraiment mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts à faire un très, très beau livre.
Parce que ça, c'est votre côté journaliste, bien sûr, d'aller fouiller. Vous avez finalement décidé d'y aller avec beaucoup d'articles de journaux de l'époque, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Mais en fait, fort heureusement, d'ailleurs, bon, les archives vont conserver, évidemment, tous ces documents-là, parce que c'est pas elle qui était la plus... qui conservait le plus, le plus d'articles ou ces choses-là. Bon, elle regardait pas vers le passé, elle regardait toujours vers l'avenir, au fond. Alors, c'est plutôt sa compagne de vie aussi qui a tout recueilli le plus possible autour d'elle.
Oui, tout à fait. Non, elle m'a dit, dès le départ, si tu t'attends à ce que je te donne des dates, oublie ça. Elle a zéro mémoire des dates, mais elle a une mémoire...
De l'émotion.
Des émotions. Ouais, tout
voilà.
À fait. Alors, donc, le point de départ, il faut le dire, de ce livre, c'est une émission de radio de 2 heures que j'ai faite avec elle il y a environ 3 ans. Et alors, je suis parti de ça, mais comme vous l'avez dit, j'ai fait mon boulot de journaliste. Alors, je suis allé, j'ai fouillé les journaux, les magazines, les archives. Et alors, j'ai ajouté tout ça à son parcours. Et elle-même, en fait, elle-même découvrait en fait, des choses dont elle ne se souvenait plus. Elle redécouvrait, en fait, des choses à son sujet. Et elle était fascinée par ça. De temps en temps, ben, j'essayais de valider une information. Elle me disait, Mario a dit, j'ai 0 souvenir de ça. Mais bon, Louise Collette, sa compagne, m'a beaucoup aidé. Heureusement, Louise a tout conservé.
C'est
depuis
ça.
Depuis tout début. Ouais, tout conservé dans des grosses boîtes, toutes les coupures de presse. Et bon, Hélène Penneau, qui avait fait la première biographie dans les années 80, n'avait pas eu accès à ça. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir fouiller là-dedans, parce que, bon, sur le site de BANQ, de Bibliothèque et Archives nationales, on trouve la plupart des grands quotidiens, des journaux québécois, mais on ne trouve pas tout. Alors là, j'avais vraiment... Et j'ai pu reconstituer, c'est comme ça que j'ai pu reconstituer le fil de sa carrière, qui commence en 57,
ouais.
Et qui n'est pas terminée, parce qu'elle continue, elle continue de dessiner.
Tout à fait,
elle est encore,
ouais,
active.
Elle expose aussi à l'occasion, oui.
Pardon?
Elle expose à l'occasion ses dessins.
Elle expose à l'occasion. Elle a fait plusieurs projets de livres. Elle continue de s'occuper des impatients, qui est une cause qui lui tient à cœur. Et puis, bon, on l'a vu quand le livre a été lancé au mois de mars. Donc, elle était en entrevue sur plusieurs télés, dans plusieurs magazines et journaux. Et elle est dans une forme resplendissante. On s'est parlé encore il y a quelques jours. On s'appelle, on se voit. Je vais la voir près de son très, très beau lac.
Oui, c'est ça, dans l'Estrie. Oui, tout à fait. Mais puis parce qu'en fait, le livre a eu beaucoup de succès, à tel point que je pense qu'il y avait une réimpression, là.
Oui, là, on est rendu à la troisième réimpression qui devrait arriver bientôt dans les librairies. À l'automne, c'est le Salon du livre de Montréal, évidemment. Et pendant le salon, Clémence va avoir 90 ans. Je pense que ça mérite d'être souligné.
Tout à fait.
Alors, on se prépare donc au Salon du livre. Alors oui, c'est un très, très beau succès. On est content et comme je dis, elle mérite largement et tout ça. Puis elle le dit, elle voit ça comme un cadeau de ma part. Et puis le livre, elle le trouve beau. Et j'ai encore le souvenir quand elle est venue chez moi, on lui a montré toutes les maquettes, toutes les pages. Et là, elle a réalisé elle a vu à quoi l'objet allait ressembler. Elle était vraiment touchée.
Tout à fait, j'imagine. Non, puis les photos aussi, vous avez pris soin d'aller chercher des photos aussi qui n'avaient pas nécessairement été publiées,
ouais.
Enfin, qu'on n'avait pas nécessairement vu partout, là.
Oui, oui, tout à fait. Alors, parce que, bon, Clémence, il y a eu une biographie qui a été remaniée, d'ailleurs, par Daniel Bombardier, mais bon, il y a eu un nombre incalculable de reportages dans les journaux, dans les magazines. Et là, ben, il y a des photos qu'on voit, assez souvent, celles avec son père, notamment, certaines avec son père et tout ça.
Le grand poète, oui, c'est ça, Alfred Desrochers, bien sûr.
Desrochers, le grand poète. Et alors, j'ai dit à l'éditrice déléguée, Sylvie Latour, on va essayer d'éviter ça, puis d'aller trouver des choses qu'on n'a pas vues. Et là, Sylvie m'a vraiment aidé là-dessus. Et alors, on a fait des choix. Il y en a tellement. Alors, oui, wow, et puis elle-même, il y a des choses qu'elle n'avait pas vues, revues depuis 40 ans, 50 ans, donc elle était... Et puis là, ben, je parle de photos, il y a aussi des coupures de presse.
Tout à fait, des lettres manuscrites aussi qu'elle adressait à son père.
Oui.
Mais en fait, c'est intéressant parce que vous aviez déjà sa confiance parce que, bon, il y a eu, comme vous dites, cette émission de 2 heures que vous aviez fait avec elle déjà. Et puis, bon, alors là, vous ne vouliez pas vous retrouver avec elle et puis passer trop de temps à parler en longue, avec de longues entrevues parce que ça avait en quelque sorte été fait. Mais vous avez eu accès quand même à d'autres personnes aussi qui l'ont, des amis, des gens qui l'ont côtoyé, bien entendu. Là, on pense entre autres à Marie-Michel Desrosiers, on oui. pense à Louise Latraverse.
Tout à fait. Parce que, bon, c'est ma quatrième biographie, en fait, mon quatrième ouvrage biographique. J'ai fait la biographie de René Claude.
Aznavour.
Sur l'Aznavour. Et là, c'était différent. Dans le cas de René malheureusement, elle ne pouvait pas participer au projet parce qu'elle était déjà malade à l'époque. Alors, donc là, j'ai vraiment fait une quête ou un travail de journaliste, c'est-à-dire que j'ai fait une trentaine d'entrevues et c'est comme ça que j'ai pu raconter sa vie. Dans le cas de Clémence, comme Hélène Pedneau et Daniel Bombardier avaient déjà tout fait ça. C'est-à-dire qu'ils avaient parlé, elles avaient parlé à ses grands amis, Yvon Deschamps et tout ça, Marc Favreau. Alors là, j'ai dit, ben, je ne vais pas refaire ce qu'ils ont fait. Là, j'ai gardé quelques amis précieux qui m'ont aidé, entre autres dans le chapitre sur l'amitié, justement, qui m'ont aidé donc à écrire ça. Ils ont témoigné. Marie-Michel, en plus, Marie-Michel, elle est la cousine de Louise.
Ah, ouais, bon, c'est la compagne de vie de Clémence. Ah,
donc,
bon.
Elles se connaissent depuis très, très longtemps, les trois. Marie-Michel a chanté « L'amante et l'épouse » avec Clémence il y a très longtemps. Puis, évidemment, elle a fait la longue tournée, une des dernières tournées de Clémence, en fait, sa dernière tournée. Mm-hmm. Donc, elles ont partagé la scène ensemble. Et donc, elle a accepté de me parler de sa Clémence.
Ah, c'est ça. Donc, effectivement, vous avez... Bon, c'est sûr qu'elle a eu une carrière incroyable. Hein? Elle a travaillé beaucoup, vous le soulignez d'ailleurs. Vous lui faites remarquer d'ailleurs qu'elle a travaillé beaucoup. Et puis, finalement, elle dit, ben, pas tant que ça, mais enfin, oui, ça a été... c'est énorme ce qu'elle a accompli, cette femme-là, qui était une pionnière. Là. D'ailleurs, elle était toujours... elle était un peu seule, femme, pendant la période des Beaux-Eaux, là, dans les années 50, 59 à peu près. Là. Elle c'était un boys club, au fond, mais elle était très à l'aise comme femme. Elle n'a jamais vraiment, comment dire, à la fois on peut dire que c'est une féministe, mais ce n'est pas une féministe militante. Elle n'a jamais été là-dedans.
Tout à fait, tout à fait. Puis c'est Louise Latraverse, en fait, qui me disait ça. Elle dit, Clémence, on est amis parce que toutes les deux, on voit les choses de la même façon. Clémence, elle fait ce qu'elle a à faire, point. Elle ne se pose pas de questions. Donc, c'est assez quand même renversant de voir que à la fin des années 50, donc elle se joint, vous l'avez dit, au Bozo, et elle se met à faire une série de revues musicales, et elle se retrouve avec la plupart du temps des hommes, les techniciens sont des hommes, les musiciens sont des hommes, elle est la seule femme parmi tous ces gens-là, et elle fonce, puis elle fait ce qu'elle a à faire, puis elle fait tout, là. Elle écrit les textes, elle fait la mise en scène. Elle se tourne évidemment vers des compositeurs pour les musiques.
Pour les musiques, des collaborateurs aussi qui vont être là de longue date, bien entendu.
Oui, tout à fait. Oui, des amis. Et alors donc, c'est vraiment... Et quand on lui dit, effectivement, quand je lui dis, mais c'est fou ce que tu as travaillé, elle ne voit pas les choses comme ça parce que, bon, ces choses-là, elle les a vécues les unes après les autres. Et, mais bon, tu sais, je raconte qu'il y a une période dans les années 60... Elle faisait, le jour où elle faisait de la télévision à Radio-Canada, elle faisait la première partie de Raymond DeVos au TNM, et tout de suite après, elle sautait dans un taxi pour aller faire deux spectacles dans un cabaret. Alors, c'était des grosses journées quand même, on verrait tout ça aujourd'hui, là, ou à peu près pas.
C'est ça, puis avec son look de couventine, en quelque sorte, oui. C'était très drôle, oui. C'est ça, donc, effectivement, tout un parcours qu'elle a eu. Et puis, en fait, beaucoup se sont inspirés un peu de sa manière aussi, de sa poésie, de sa façon de dire les choses. On pense aux Plamondons de ce monde-là qui ont, par la suite, peut-être, qui ont été un peu influencés par la parole, par les mots de Clémence, sa façon de dire les choses, quoi.
Oui, tout à fait. Ben, je pense aussi aux auteurs dans le groupe Beau Dommage. Pierre Huet le reconnaît lui-même. Il y a une poésie, il y a une maîtrise de l'écriture et de la poésie, mais en même temps, il y a une parlure. Elle est celle qui, très, très tôt, va ajouter des couleurs qui nous ressemblent quand elle parle des bébelles, faiseuses de bébelles au Japon dans la vie de factory. Alors, au départ, ça étonne, ces choses-là. Après, plus tard, quand les années 70 arrivent et qu'on voit tous les groupes, la vague de groupes québécois, ça étonne moins. Mais elle est parmi les pionnières, elle est parmi les premières à faire ça. Alors, je pense qu'on ne soupçonne pas tout ce qu'elle a apporté à la chanson québécoise.
Ouais.
C'est énorme dans le cas de Clémence.
Ouais. C'est toute notre histoire aussi du Québec. Enfin, il y a plein de choses vraiment dans ce livre qu'on va découvrir. C'est absolument passionnant parce qu'on découvre évidemment non seulement sa poésie, mais enfin toute son histoire. C'est très riche, là. C'est vraiment une pionnière dans tous les sens.
Alors, tout à fait, tout à fait. Et quand je lui disais ça, elle me répondait, ah, la Bolduc, elle, c'est une pionnière. Ben, je dis, mais non, attends. Puis c'est quand même fascinant de voir qu'il y a très peu d'années qui séparent la Bolduc, la mort de la Bolduc et l'arrivée de Clémence, et toutes les deux, à leur façon, elles ont vraiment ouvert le chemin.
Ouais.
Et alors voilà,
je suis très contente d'avoir parlé de ce livre. Clémence, encore une fois, Mario Girard, ça a été un bonheur et il faut vraiment se procurer ce livre. C'est de toute beauté, très riche. Merci infiniment d'être venu nous en parler. On aurait pu en parler pendant au moins une heure, très certainement. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Merci de l'accueil. Au revoir.
Et j'en profite pour souhaiter à tous une bonne journée, une bonne fin de semaine aussi. Hein. C'était notre dernière journée de la semaine. On se retrouve lundi même heure entre midi et 13h à M l'été. Ici Chantal Lavoie. Au revoir.